RT Cool. La radio. School.
Salut les auditeurs, c'est Julie
et Mathieu pour la blagounette de la semaine sur RT Cool. Orange et citron traversent la rue.
Tout à coup, Citron se fait écraser par un camion et Orange lui dit « Alors Citron, on se presse ?»
Salut, c'était Citron pressé
et Orange sur RT Cool.
À la semaine prochaine
pour une blague encore plus drôle.
Mandelieu, Lanapoule,
Istanbul,
Risoul,
Frioul,
Liverpool,
Banjul,
Aknoul,
La Bourboule,
Toul,
Blackpool,
Séoul.
Des endroits, il y en a une foule.
Sur RT Cool.
Salut tout le monde, je suis Nathan et voici Barnabé. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 mai.
Nathan, nous sommes bien le mardi 17 mai, mais nous sommes ici pour le pays de la semaine qui est la Suède.
Oui, je sais, mais nos auditeurs, eux, ne le savent pas.
Nathan, tu m'énerves.
Ok, on commence.
La Suède est un pays du nord de l'Europe. Son seul voisin est la Norvège.
La Suède est un pays froid. L'hiver, beaucoup de visiteurs viennent skier sur les petites montagnes ou collines.
La capitale de la Suède est Stockholm.
La gastronomie suédoise est plutôt particulière.
Les Suédois mangent beaucoup de purées et des boulettes.
Ils mangent aussi une sorte de pâte de poisson qu'ils mettent dans la purée ou sur du pain.
Voilà, c'était tout pour la Suède.
À la semaine prochaine.
Salut, c'est Coxy sur RT Puceron et aujourd'hui nous allons donner une astuce aux personnes qui ont un jardin ou une terrasse pour pouvoir traiter les pucerons. Au lieu de se servir de pesticides, il y a un remède beaucoup plus écologique. Ce sont les coccinelles ou les larves de coccinelles. Vous pouvez acheter une grosse quantité de larves ou de coccinelles sur le site www.vente-coccinelles.fr par exemple. Vous répartissez les bêtes dans les plantes et le tour est joué. Salut, c'était Eva.
Salut, c'est Lucas sur RT Cool pour les personnages historiques qui sont Hans Scholl et Sophie Scholl. Sophie Magdalena est née le 9 mai 1921 à Forchenberg en Allemagne et morte le 22 février 1943. Comme le reste des jeunes Allemands, elle est embrigadée dans les jeunesses hitlériennes. Elle y ressent très tôt la restriction des libertés, en particulier de pensée et de religion chrétienne. Elle est comme son frère Hans, profondément croyante. Après avoir lancé des tracts dans la cour intérieure de l'université de Munich, elle est dénoncée à la Gestapo par le concierge de l'université Jacob Schmidt et est arrêtée avec son frère Hans Scholl le 18 février 1943. Son frère Hans Scholl est né le 22 septembre 1918 à Anstersien, an der Jax, aujourd'hui un quartier de Kreisheim en Allemagne, exécuté le 22 février 1943 à Munich. Il était un jeune étudiant en médecine, résistant allemand au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'un des piliers du réseau La Rose Blanche avec son fidèle ami Alexander Schnorell. En effet, s'il avait dû intégrer le mouvement des jeunesses hitlériennes, il était resté très éloigné de l'idéologie nazisme dominante. Voilà, c'était Lucas sur RT Cool.
Le moment
des sciences.
Hey Johan, tout à l'heure, on va regarder une vidéo sur le vidéoprojecteur. Tu peux m'en dire plus sur lui ?
D'accord Inès, le vidéoprojecteur est un appareil de projection conçu pour reproduire une source vidéo, dite vidéogramme ou informatique, sur un écran séparé ou sur une surface murale blanche.
Ah ok, mais je n'ai rien compris.
On associe parfois le terme vidéoprojection avec la notion frontale pour le distinguer de la rétroprojection. Ainsi, le rétroprojecteur est un appareil d'affichage vidéo
ou un téléviseur de grande taille qui utilise un vidéoprojecteur. Une optique et un écran semi-opaque ou blanc.
Et sinon, c'est quoi sa définition ?
C'est un appareil projetant l'image d'un sujet, document écrit, image, séquence filmée, sur une surface lisse, mur, écran.
En parlant de définition, ça veut dire quoi frontal et semi-opaque et vidéogramme et...
Inès, écoute, je vais t'expliquer ce que tous ces mots veulent dire, mais d'abord les prix.
Le prix d'un vidéoprojecteur varie entre 12 € et 14 500 €.
Bon, maintenant, les définitions !
C'est bon, t'as terminé, on peut avoir les définitions ?
Oh, c'est bon, la définition de frontal est qui se fait de face.
Stop, stop ! Tais-toi, tu crois vraiment que les auditeurs ont besoin de ta morale ?
Et toi, de ta mauvaise humeur ! Bon, on vous quitte.
Franchement, t'es énervant.
Eh, mais t'as pas coupé !
Coupe !
Avia, on abaisse.
Once upon a time.
Isha.
Elle a oublié.
Kanyamakan.
Il était une fois.
La phrase de la semaine.
Hello, it's Remy and Amalia on Articool pour la phrase de la semaine. Rémi, comment dit-on « Depuis le 1er mai, un énorme incendie détruit les forêts de l'ouest du Canada » en anglais ?
On dit « Since the 1st of May, a huge fire is destructing the forests in the western part of Canada ». Et comment dit-on « Aujourd'hui, c'est la photo de classe » en espagnol ?
On dit « Hoy es la foto del aula ». Adios, c'était Rémi et Amalia sur RTCool.
Le coin du musicien.
Salut Emeric.
Salut Capucine. On fait bien Django Reinhardt pour le coin du musicien aujourd'hui.
Oui, alors commençons. Jean-Baptiste Reinhardt, plus connu sous le nom de Django Reinhardt, est né le 23 janvier 1910 à Liberchy, en Belgique.
Issu d'une famille scintille et communément appelée en France Manouche, il est encore aujourd'hui un des guitaristes les plus respectés et influents de l'histoire du jazz.
Plusieurs de ses descendants sont devenus guitaristes. Louçon Reinhardt, son fils aîné, issu d'un premier mariage, 1929 à 1992.
Babik Reinhardt, son second fils, 1944-2001.
Et David Reinhardt, son petit-fils, fils de Babik.
Django apprend la musique avec le violon. La rencontre avec le banjo-guitare de son oncle à l'âge de 12 ans est décisive.
Fasciné par l'instrument, le jeune Django n'a dès lors de cesse de s'écorcher les doigts sur ses cordes oxydées.
Il fait son apprentissage en observant avec attention les musiciens de passage au campement et acquiert bientôt une dextérité hors du commun.
Il se mettra avec le même bonheur au violon et finalement à la guitare. Il débute dans l'orchestre familial que son père, musicien, jouant du piano et du cymbalum, dirige.
Vers l'âge de 12 ou 13 ans, il joue du banjo-guitare dans les cours d'immeubles, dans les rues, puis dans les cabarets et les bals de Paris, ainsi que dans les demeures des gens aisés, tout en continuant de jouer surtout pour son propre plaisir.
Il est repéré par l'accordéoniste du bal, Guérino, qui le convainc de l'accompagner.
La réputation du jeune virtuose se répand chez les amateurs de musique et, en 1928, l'accordéoniste Jean Vessade permet à Django d'enregistrer son premier disque.
L'adolescent, ne sachant ni lire ni écrire, même pas son propre nom, les étiquettes portent la mention « Django Reinhardt, banjoïste ».
La même année, le chef d'orchestre Jack Hilton, impressionné par la virtuosité de Django, lui propose de l'engager dans sa formation de musique populaire qui doit se produire à Londres.
Mais le destin contrecarre ce projet. Juste avant le départ du groupe, le 26 octobre 1928, à Saint-Ouen, banlieue nord de Paris, près de la rue des Rosiers, un incendie se déclare dans la roulotte où le musicien vit en compagnie de sa femme, de sa première femme, Bella Baumgartner.
Les fleurs en celluloïde, matière très inflammable, s'enflamment au contact d'une bougie renversée, détruisant la caravane et blessant assez gravement ses deux occupants.
Django est sérieusement atteint à la jambe droite et à la main gauche. Celle-ci cicatrise très difficilement. Il reste près de 18 mois à l'hôpital, où les médecins pronostiquent des séquelles qui l'empêcheraient de rejouer du banjo.
On doit finalement cicatriser la blessure au nitrate d'argent. Django a perdu l'usage de deux doigts, mais il s'obstine néanmoins. Et après 6 mois de travail sans relâche, il développe une technique nouvelle sur la guitare que son frère Joseph, alias Nanin, lui a apporté en guise d'outil de rééducation, le banjo étant trop sonore pour continuer à le jouer à l'hôpital.
Au printemps 1930, alors que Django est toujours soigné à l'hôpital Saint-Louis, une commission de contrôle militaire vient juger sur place de son état de santé. Le musicien, âgé de 20 ans et devant donc accomplir son service militaire, n'a répondu à aucune lettre de convocation depuis 2 ans. Mais ses blessures lui permettent d'être rapidement exempté.
Ses plus grands titres sont « Minor Swing » et « Nuages ».
Malheureusement, il meurt le 16 mai 1953 à Samois-sur-Seine à l'âge de 43 ans.
Et si on écoutait un morceau de Django ?
Oh oui, on pourrait écouter « Nuages ».
Ok.
La compagnie.
Le moment des sports.
Salut, c'est bicyclette
et vélo pour le moment des sports.
Le cyclisme. Le 12 juillet 1817, un Allemand de 34 ans, le baron Drez, assis à califourchon sur une poutre en bois, reliant deux roues, parcourt avec sa machine 14,4 km en une heure par action de ses pieds sur le sol.
Cette machine, appelée communément en France drésienne, est brevetée en 1818 sous le nom de vélocipède, puisque son but est de faire marcher une personne avec une grande vitesse.
Son succès fut éphémère. Le vélocipède ne retrouvera les valeurs publiques que le jour où les inventeurs comme Michaud le dotèrent de pédales.
Maintenant, le vélo est très pratiqué dans les clubs. Il existe 5 épreuves sportives pour 8 titres nationaux de cyclisme.
Le cyclisme est même devenu une discipline olympique. Et nous allons vous citer quelques coureurs.
Thibaut Pinot, Nairo Quintana, Bernard Hinault, Christopher Froome, Alberto Contador, Eugène Christophe et Eddy Merckx.
Salut, c'était Bicyclette.
Et vélo sur Arte Cool.
Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en direct d'RT Cool.
Vous écoutez RT Cool, mais plus précisément le son mystère.
Nous allons commencer par citer les gagnants de la semaine dernière qui sont... Personne.
Le bruit de la semaine dernière était le son d'une roue à hamster avec un bout de papier.
Voici maintenant notre fabuleux son mystère.
Si vous avez trouvé, répondez-nous sur...
son-mystère.cm2@laposte.net.
On espère que vous serez... nombreux à nous répondre.
RT Cool.
La radio.
À school.
At school. School.